Bonjour à tous, on va y aller. Eh bien, bienvenue à la rencontre professionnelle des RIA, comme on l'a fait chaque année à Quimperlé. Donc c'est l'idée d'une rencontre qui puisse associer dans la discussion citoyens, artistes, programmateurs, personnes des collectivités, élus, techniciens, et puis qui veut évidemment, mais qu'il y ait cette rencontre entre tous les gens qui font que le spectacle vivant existe et tel qu'il est aujourd'hui. Donc on a un peu de retard, on devait commencer à 14h14, on finira quand même vers 16h32. Voilà. Cette année, la thématique qui a été décidée, c'est de travailler sur la question de la création artistique en espace public et la censure et l'autocensure autour de cette création-là. C'est notamment lié à des annulations de spectacles qui ont eu lieu récemment. Là. Et évidemment, les baisses budgétaires qu'on a vues et parfois des questions qui peuvent se poser sur comment on monte un spectacle pour dire quoi et comment on fait pour le tourner derrière et toutes les questions mais dont on va parler. Il y a eu des retours des artistes aussi dans des discussions. Le Fourneau en a eu, donc ça a un peu nourri aussi cette réflexion. Et puis évidemment, les événements de Charlie Hebdo posent aussi des questions sur comment on peut parler de tout ça et, ou pas. Et voilà, ça fait partie de cette interrogation. Avant de laisser la parole à Olivier Neveu qui fera l'introduction, un petit mot de Sébastien Miossec au nom de la CocoPac, la communauté de communes du Pays de Quimperlé, qui nous accueille aujourd'hui.
Merci Simon. Juste deux, trois mots, parce que comme ça a été dit, on est un peu en retard. Donc bienvenue ici à Quimperlé. Je vous salue donc en tant que président de la communauté de communes du Pays de Quimperlé, qui est la collectivité qui, avec le Fourneau, porte cet événement. Je vous accueille aussi au nom de la ville de Quimperlé. Cécile est par là, je l'ai perdu de vue. Elle est là, derrière, toute discrète. Donc Cécile Pelletier qui est adjointe à la culture de Quimperlé. Jacques Julot qui est, lui, je le vois pas parce qu'il est derrière l'arbre, mais il est là, mon vice-président de la culture. Donc au nom de la communauté et de la ville, on vous accueille avec grand plaisir ici à Quimperlé, dans le cadre de ce festival des RIA. En deux mots, juste expliquer, on est à la 7e édition, une aventure qui a commencé à la fin de l'été 2009. Les trois communes littorales de notre territoire, donc Moëlan-sur-Mer, Cloire-Carnouët et Rieck-sur-Bellon, on a souhaité tous les trois créer un événement qui a grandi, avec déjà à l'époque le partenariat et la complicité du Fourneau. Et puis donc on arrive à cette 7e édition au total, 4e édition intercommunale. Et puis on a pris cette habitude d'avoir toujours un rendez-vous au-delà de l'artistique pour échanger, discuter comme aujourd'hui. Il se fait dans un contexte que Simon a rappelé. Ici en Pays de Quimperlé, heureusement, on n'a pas eu encore, et on n'a pas eu à vivre des moments difficiles. On est plutôt ici avec le Festival des RIA notamment dans une dynamique, d'un maintien d'une ambition et même le développement, puisque unanimement l'ensemble des élus communautaires ont souhaité qu'on augmente la contribution de la communauté au festival. On a développé le nombre de rendez-vous. Donc on est heureusement dans une dynamique positive aujourd'hui en Pays de Quimperlé, mais on sait que ce n'est pas le cas partout en France, loin de là. Et donc l'échange qu'on va avoir va nous permettre de faire un point là-dessus et puis donc éclairé par Monsieur Neveu, à qui je souhaite bienvenue, et puis Paul Blois, qui est local de l'État presque maintenant, puisque vous logez quasiment derrière nous. Voilà, merci à vous.
Et un petit mot du Fourneau aussi, qui nous accueille évidemment.
Bienvenue à tous. Donc Claude Morizur est sur le site puisqu'on a plein de spectacles qui actuellement se mettent en place. Donc il fait le tour et il va nous rejoindre tout à l'heure. Donc juste pour dire qu'effectivement ce thème dont on va débattre est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui, et c'est en discutant cet hiver avec Alex Pavlata qui était en pleine création du spectacle dont vous avez pu voir une partie ce matin, que ce thème est vraiment apparu parce qu'il concerne à la fois nous, programmateurs, les élus, bien évidemment, des villes, mais aussi les artistes, parce que qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, jusqu'où peut-on aller sur l'espace public? C'est vraiment une vraie question. Donc juste pour dire aussi que, bien évidemment, aujourd'hui, ce matin, vous avez pu découvrir numéro 8, qu'il y aura deux spectacles à la suite de cette rencontre professionnelle et aussi plein de spectacles ensuite sur la ville de Quimperlé. Donc, bonne discussion et bonne rencontre professionnelle et bon spectacle à vous. Cette discussion est également organisée par nous, le Fourneau, avec à nos côtés également la Fédération des œuvres, la Fédération des arts de la rue. C'est mon passé qui me rejoint. La Fédération des arts de la rue de Bretagne et même nationale, puisque Thomas est avec nous également aujourd'hui et qu'on a plaisir à accueillir donc Caroline Loire, qui est là également, en plus donc des artistes, de quelques-uns des artistes qui sont sur le festival.
Avant d'ouvrir le débat, donc Olivier Neveu, qui est professeur d'histoire du théâtre et d'esthétique à l'Université de Lyon 2, va intervenir pendant une petite demi-heure. Et on s'excuse à deux voix du fait qu'il doit être à Marseille demain matin. Et donc, il va partir à 16h30, pétante. Donc, peut-être qu'il s'éclipsera à la toute fin du débat. Quoi. Voilà. Mais il sera là pendant deux heures avec nous. Voilà, Olivier.
Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Simon. Ce que je vais essayer de faire, d'abord, je vais brancher le chronomètre pour essayer de ne pas être trop long. Ce que je vais essayer de faire, c'est je vais pas du tout dresser un portrait général ou je ne suis pas juriste. Donc, c'est juste quelques remarques, sachant que les remarques que je vais faire, je ne crois pas un instant à la scientificité des universitaires, même si aujourd'hui nous sommes sollicité, voire même assigné à des scientifiques, ce qui fait qu'il n'y a plus de pensée du tout dans l'université. Une espèce de vagues eaux usées qui se trimballent de personne en personne. Donc ce que je vais dire est tout à fait sujet à caution, à discussion, à débat. Il y a même des choses que je vais dire, je ne suis pas forcément sûr d'être d'accord. Je vais le dire de manière très souvent très véhémente et très définitive. Je suis beaucoup plus inquiet que l'image que je vais renvoyer de moi, en tout cas beaucoup plus perplexe même sur certaines idées. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas objectif du tout ce que je vais dire. Ce n'est pas du tout impartial. Je crois, comme Armand Gatti, que ne pas prendre parti, c'est prendre le parti du plus fort, ce qui, par les temps qui courent, est une faute politique. Donc voilà, juste, je vais essayer de proposer un certain nombre de remarques générales sur cette question par rapport à la commande qui m'a été passée. Avec déjà, pour planter le décor, une inquiétude par rapport à ce type de débat ou par rapport à ce type de questions. Et quand tu m'as proposé, donc il y a quelques semaines, j'ai tout de suite vu trois dangers majeurs à se retrouver autour de ce type de questions. Le premier, qui n'est pas le moindre, c'est la bonne conscience. C'est qu'on soit tous assez d'accord sur le fait que la censure, c'est dégueulasse, que la liberté d'expression, on est à mort pour, et que suce à la censure, quoi. Et souvent, d'ailleurs, les débats autour de ces questions se règlent dans ces termes-là et on se vante d'être des progressistes, d'être des humanistes, de voir la barbarie ailleurs, dans un certain nombre de pays, dans un certain climat du monde. Et puis, on se glorifie d'être les apôtres de la liberté. Je crois que la question, elle est un tout petit peu plus compliquée. Moi, je ne suis pas sûr, pour être tout à fait honnête, d'être absolument pour la liberté d'expression. Il y a quelques années, j'ai manifesté... Alors, je n'étais pas pour que l'État intervienne, mais j'ai manifesté devant les spectacles de Dieudonné. Je n'étais pas complètement certain qu'il avait le droit de prendre la parole. Enfin, en tout cas, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'il la prenne sans qu'il y ait de résistance ou de réaction. Donc, cette histoire de la liberté d'expression, a priori, j'aurais tendance à dire oui, totale liberté, mais je ne suis pas complètement sûr de ça. Dans les années 70, il y avait un très, très grand éditeur, Jean-Jacques Pauvert, qui est décédé l'an passé, à qui on doit l'édition des œuvres de Sade. La censure, c'est intéressant parce que c'est très historique. Hein. Quand Pauvert sort les œuvres de Sade dans les années 50, c'est condamnation immédiate devant les tribunaux. Dans quelques années, ce sera au programme du bac. Hein, donc, dans les années 70, ils se mettent d'accord avec un certain nombre d'éditeurs qui sont des éditeurs importants, Gallimard, Minuit, Pauvert, pour sortir un texte d'un révolutionnaire guérillero brésilien, Marighella, en disant, si on se met à plusieurs éditeurs, l'État n'osera pas, parce qu'à l'époque, l'État fait directement prélèvement sur les livres. C'est Guyotat, c'est bon. Si on se met à plusieurs, l'État n'osera pas. Et ils sortent Marighella, c'est un manuel de guérilla urbaine, pour donner quand même une idée de ce qu'ils publiaient à l'époque. Je ne suis pas sûr que ça paraîtrait là, comme ça, aujourd'hui. Et puis, bon, le livre paraît, sans problème. Et Pauvert, qui est un provocateur, envoie un courrier à l'ensemble de ses camarades d'édition, en disant, j'ai une blague à vous faire maintenant. On s'est tous mis d'accord entre éditeurs de gauche sur la publication de Marighella. Je vous propose, pour vérifier vraiment qu'on est pour la liberté d'expression, qu'on sorte un brûlot d'extrême droite et puis qu'on porte une espèce de livre un peu naze, érotique, parce qu'à l'époque, il y a une censure très forte sur les œuvres à caractère pornographique. Et là, il a beaucoup moins de réponses. Alors, sur les œuvres d'extrême droite, il n'en a quasiment aucun qui soutient. Et puis, sur les œuvres pornographiques, il sort un roman. Pareil, il dit même, le roman que je vais publier est très mauvais. Donc l'idée, c'est pas de défendre l'art. L'idée, c'est de défendre la liberté d'expression. Et les autres éditeurs disent, oui, mais nous, on veut bien publier une grande œuvre. Si c'est une grande œuvre, la liberté d'expression comme ça, inconditionnelle. Et Pauvert en déduit quand même que la liberté d'expression, c'est quand même toujours un peu à géométrie variable, quoi. C'est un peu la liberté d'expression pour les gens qui sont d'accord avec nous. Ce qui, je trouve, permet un tout petit peu de brusquer, ou en tout cas de compliquer un petit peu la discussion pour nous. Donc, premier danger, la bonne conscience. On sort tous de là en disant qu'on est vraiment des progressistes face à la barbarie et à la décivilisation. Et puis, on répète que l'art est le garant de la démocratie, que l'art et le théâtre sont les garants de la liberté. Il y a du théâtre dans des dictatures, hein. Ça n'empêche pas. Et on en parlait à midi, entre 40 et 45, les théâtres étaient pleins. Donc l'art ne protège de rien. D'ailleurs, on s'est même aperçu après la libération que les profs de fac, parmi ceux qui avaient le plus collaboré, c'était les philosophes. Donc l'art et le concept ne protègent jamais de rien. C'est bien de se le redire, quoi, pour ne pas se la raconter, parce que ça va vite quand même, de se mettre dans des positions résistantes et héroïques sans avoir fait grand-chose. Bon. Premier danger, donc la bonne conscience. Deuxième grand danger, me semble-t-il, c'est la confusion des choses. Parce que toutes les censures ou toutes les atteintes à la liberté d'expression, encore une fois, maintenant, mis à part le fait qu'on soit pour ou qu'on soit contre, bon, elles ne sont pas toutes les mêmes, elles ne sont pas toutes de même nature. Je vais prendre un exemple qui a eu lieu là, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2-3 ans, c'était le spectacle de Romeo Castellucci sur le visage du concept de Dieu, où des catholiques intégristes de Civitas, qu'on va retrouver très très actifs et très mobilisés dans la Manif pour tous l'année d'après, vont empêcher le spectacle en jetant des boules puantes, en protestant devant les salles de spectacle. Ils vont refaire à peu près la même chose avec un spectacle de Rodrigo Garcia. À l'époque, on a quand même, et je trouve que j'y reviendrai dans ma conclusion, cette chose à penser, une réaction quasiment insignifiante des milieux culturels, des milieux artistiques. Quasiment personne ne bouge, à part les directeurs de théâtre directement concernés, pas de pétition, pas de mise en demeure. Le grand acteur André Wims disait, ils sont 200 dans la rue, pourquoi on ne descend pas à 300, on leur fout une raclée. Enfin, je dirais, il y a un moment aussi où, rapport de force, on invente quelque chose, on invente une résistance. Ça passe à peu près comme quand du beurre. On s'alerte tous un peu dans nos coins en disant, c'est quand même très grave ce qui est en train de se passer, mais globalement, ça passe. Ça passe. Et il y a des difficultés aujourd'hui à programmer Romeo Castellucci. Il s'entend dire dans certains lieux, ça va être un peu compliqué. Et c'est quand même un truc un peu étrange de programmer Castellucci et d'appeler la préfecture pour être sûr qu'on va protéger le théâtre. Ben bon. À ce moment-là, il y a, donc je vous dis, très peu de choses dans la presse. Il y a un article d'un ami, par ailleurs, mais je ne vais pas être d'accord avec lui, Bruno Tackels, qui écrit un texte, un des rares textes de soutien à Castellucci, en disant, un des rares textes publics de soutien à Castellucci, en disant, mais c'est un peu comme quand Jean Genet créait les paravents. Je reviendrai tout à l'heure sur Jean Genet, mais pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Jean Genet faisait une œuvre de provocation. Romeo Castellucci faisait une œuvre d'adoration. C'est-à-dire, Castellucci dit, je suis catholique. Mon œuvre est aussi un témoignage. Donc c'est les cathos qui comprennent pas, enfin c'est les intégristes qui comprennent pas le message de sa pièce. Mais on n'est pas du tout dans la même volonté de transgression que l'œuvre de Genet. Donc premier cas, ça. Et puis deuxième, il y a quelques mois, au début de l'année, Exhibit B. Je ne sais pas si vous avez suivi ce grand merdier. Ça a été épique. Donc cette performance qui reproduisait les visites des zoos humains avec des figurants et des acteurs noirs, et vous circuliez, vous déambuliez en regardant donc des corps d'acteurs noirs qui généralement vous regardaient avec des larmes dans les yeux sur la musique classique. Bon. Et donc, c'est une déambulation pour représenter la violence coloniale, bon, ce que l'Occident a fait sur, notamment au peuple africain. Début septembre, vous avez commencé, ça commence un peu à bouger du côté d'associations militantes radicales noires. Les indigènes de la République, la brigade antinégrophobie, puis un certain nombre de collectifs, avec une pétition qui est lancée qui est à peu près 15 000 signataires. Les théâtres ne bougent pas quand même, hein. Les spectacles devaient avoir lieu fin octobre. Aucun théâtre où ça devait être programmé ne prend directement langue avec les associations qui se battent contre ce spectacle. Et puis, bon, les spectacles ont lieu, vous le savez peut-être, il y a des manifs devant les spectacles, ils envoient les flics, c'est très très violent, il y a des gens qui vont peut-être se retrouver condamnés, il y a certainement eu du violence du côté des manifestants. Moi, il se trouve que j'ai des amis des deux côtés, donc on me dit, mais va voir un peu ce que racontent les manifestants quand même. Parce que, pareil, bonne conscience humaniste de gauche, je trouve ça pas bien d'empêcher un spectacle. La pétition à l'époque se battait pour la déprogrammation du spectacle. Et je me dis, mais c'est quoi cette intervention-là dans l'art ? Et je vais voir les manifestants. Il y a des dérapages insupportables dans les manifestants, mais je lis les textes et je trouve que c'est d'une sacrée qualité ce qu'ils produisent. Je crois que je suis d'accord avec à peu près rien, je n'ai pas signé la pétition, mais je trouve que les questions qu'ils posent, à savoir les questions de représentation, de narration, pourquoi ce sont les blancs qui représentent les noirs, pourquoi ce sont toujours les blancs aux commandes de la narration des noirs, je suis pas forcément, encore une fois, je suis pas, j'ai pas signé la pétition pour la déprogrammation, mais je trouve que c'est des sacrées questions. Et c'est des sacrées questions qui nous restent sous les bras et qu'il faut qu'on se pose. Et pour moi, il est absolument hors de question de mettre sur un pied d'égalité les fascistes de Civitas qu'on connaît avec des militants antiracistes. Des deux côtés, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'on avait un artiste qui disait « je suis antiraciste » et dans la rue, on avait des militants antiracistes. Donc, bon, bah, c'est un débat interne entre militants antiracistes, c'est intéressant comme type de question. C'est pas du tout la même chose qu'un débat entre des gens qui affirment clairement leur appartenance à la tradition la plus radicale de l'Église catholique dans ce qu'elle peut avoir de plus dégueulasse pour Civitas. Donc, juste pour dire, je prends cet exemple de Castellucci et de Rodrigo Garcia, de Genet et de Exhibit B pour dire, mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Et moi, je trouve profondément que le milieu artistique et culturel a perdu une occasion hallucinante de discuter au mois d'octobre. Ahurissante. Il y avait la possibilité de discuter avec des associations, de rendre le spectacle gratuit, juste pour, j'étais encore une fois, pas pour l'annulation, mais de se mettre autour d'une table et de discuter. Ça a été une fin de non-recevoir. Le texte du directeur du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, mais ça aurait pu être plein d'autres directeurs, c'est un texte lénifiant. C'est le théâtre, c'est l'endroit de l'âme, du beau, etc. C'est pas possible de répondre ça quand vous avez à un moment donné une interpellation qui peut être fausse. Parce que par ailleurs, dans la rue, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient évidemment pas vu le spectacle. Mais en tout cas, il y avait un enjeu de discussion et un enjeu de débat. Donc, deuxième danger, me semble-t-il, c'est la confusion, c'est confondre toutes les avertissements ou toutes les protestations qui sont faites vis-à-vis de l'art. L'art, si c'est un endroit qui doit susciter du débat, il faut accepter le débat. Et il faut aussi accepter que des gens ne soient pas d'accord avec ce qui est proposé. Moi, je suis pour le mot d'ordre de Breton, Trotsky, dans les années 38, vous savez, face aux staliniens, le manifeste de 38, c'est toute licence en art. Oui, mais toute licence aussi dans le droit de critiquer l'art. Bon. Donc, deuxième danger, me semble-t-il, la confusion. Troisième danger, à ce type de débat, ou à ce type de question, c'est de se renfermer sur le seul domaine artistique, de ne penser l'art que dans sa spécificité d'art et de ne pas regarder ce qui est en train de se passer de manière beaucoup plus globale à l'échelle de la société et de s'alerter à juste titre d'un certain nombre d'avertissements qui sont envoyés depuis quelques mois et qui sont extrêmement inquiétants dans le domaine de la censure ou dans le domaine des pressions sur les artistes et des autocensures en faisant comme si ça tombait comme ça que du côté des artistes. Me semble-t-il, il faut replacer la question de la censure et de l'autocensure à l'intérieur d'un mouvement beaucoup plus général, qui est un mouvement politique et social. Alors, je fais trois propositions. Encore une fois, tout ça, c'est des propositions pour qu'on ne soit pas d'accord après. Hein. Trois propositions, en tout cas, pour caractériser la situation politique dans laquelle on est, qui permet peut-être ça. La première chose, c'est que depuis une trentaine d'années, on assiste à une disparition. Ce qui organisait la vie politique précédemment, c'était la contradiction de classe. Avec un parti communiste français très fort jusqu'au début des années 80. Aujourd'hui, ça n'est plus la contradiction de classe qui organise la vie sociale et la vie politique. Donc, c'est une multitude de contradictions qui émergent. Contradictions racistes, on voit qu'il y a très clairement, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, un vrai danger de l'extrême droite dans un certain nombre de régions. Mais contradictions aussi postcoloniales avec des individus qui n'étaient pas représentés et qui exigent le droit à la justice, à la représentation, à la prise en compte de leur existence. Encore une fois, les individus postcoloniaux, mais aussi tout le mouvement féministe qui s'est développé dans les milieux des arts du spectacle. Je pense à HF, qui fait un travail sur la question des représentations. Donc les contradictions ne sont plus, et je sais pas, la question c'est pas de les regretter ou pas, c'est qu'on assiste à une fragmentation des contradictions et donc avec une multiplicité des discours. Et donc des revendications de discours et de représentation et de reconnaissance sur les plateaux. Deuxième chose qui est, alors là, pareil, tout ça est très subjectif, qui me semble très inquiétante et qui est liée. Enfin, qui est liée. Un, c'est le localisme de la politique. Depuis une trentaine d'années, les collectivités territoriales et locales ont pris beaucoup plus de poids que l'État. Moi, je viens d'une région Rhône-Alpes. On a quelques craintes sur le prochain conseil régional dans le domaine culturel. Ça peut avoir des répercussions directes. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a des espaces de festivals qui sont tenus à bout de bras par les conseils régionaux. Bon, ça va bouger. Quand vous allez avoir une région nord dirigée par Marine Le Pen, ça va avoir des répercussions immédiates. Hein. Donc alors je ne sais pas si l'État était la solution face à ça, je crois en partie, mais pas que. Mais en tout cas, cette localisation de la politique fait que vous avez des interventions beaucoup plus prégnantes, beaucoup plus fortes et beaucoup plus récurrentes de politique à l'échelle locale. On peut le regretter ou pas le regretter, mais c'est une nouveauté par rapport aux années 70 forte. Et puis la deuxième chose, qui est une chose c'est ma marotte en ce moment, on en a parlé hier soir, c'est, comment je pourrais le dire de manière la plus polie possible, c'est l'inculture des élites. C'est dramatique. C'est dramatique ce que sont en train de devenir les élites. Les élites ne vont plus au Festival d'Avignon, elles vont, celles qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, et qui veulent, bon, vont encore un peu à Aix-en-Provence, mais le théâtre, c'est devenu un lieu qui n'a plus, qui ne rapporte plus symboliquement. Je ne veux pas dire que, quand je dis l'inculture, ce n'est pas qu'elles n'ont pas lu Patrick Modiano. On est à un autre endroit, quoi. Un autre endroit que les fiches Bristol pour parler des... C'est un endroit beaucoup plus grave qui est qu'aujourd'hui, les élites, nos élites, qui sont formées à peu près dans les mêmes cadres, n'ont aucune pensée de la fonction sociale de l'art, autre que celle d'accompagner, de divertir le goût général. Avant d'avoir un... On en a encore deux, trois, non, quelques-unes, j'exagère, qui défendent l'art, par exemple, comme avant-garde. Mais ils se comptent sur les doigts d'une main, hein, aujourd'hui, ceux qui aiment ça, ceux qui en ont véritablement le goût et la connaissance. Ce qui va entraîner des vraies difficultés dans les années qui viennent, parce que de fait, le niveau s'appauvrissant, vous allez avoir, on va avoir de moins en moins de soutiens et de défenseurs d'œuvres à la marge, d'œuvres à la lisière de ce qui est possible, de ce qui rapporte immédiatement. Et puis, la troisième chose, me semble-t-il, un tout petit peu nouvelle de ces 30 dernières années, 40 dernières années, c'est que la démocratie libérale, elle ne dit plus qu'elle censure. C'est-à-dire qu'elle camoufle ses méthodes de censure. Parce que c'est mal vu de censurer. Le néolibéralisme ne peut absolument pas dire qu'il censure. Bon. Donc, vous allez avoir des marches gigantesques pour la liberté d'expression, avec en première ligne une partie de toutes les crapules humaines qui aujourd'hui mettent des gens dans leurs prisons dans leurs différents pays. Et tout ça va se réclamer d'un « Je suis Charlie » qui par ailleurs était peut-être tout à fait légitime, mais enfin derrière des gens qui sont quand même tout à fait peu recommandables. Au même moment, vous avez des chasses au nom du terrorisme à des jeunes à Tarnac, au seul motif qu'ils ont une bibliothèque un peu bizarre. Je vous conseille d'aller lire Tarnac, magasin général d'un ancien journaliste de Libé, David Dufresne, sur les jeunes de Tarnac. La chose qui leur était reprochée, d'ailleurs, le tribunal, enfin, le délit de terrorisme a été levé il y a quelques jours, même si le procureur fait appel. Mais ce qui leur était reproché, c'est d'avoir Bakounine dans leur bibliothèque, quoi. C'est à peu près que ça, hein, qu'ils avaient en termes de terrorisme. Donc on se retrouve dans un paradoxe qui est qu'il n'y a plus de censure et que si, en fait, il y a des censures. Si, en fait, aujourd'hui, il y a des entraves à la liberté d'expression. La première entrave à la liberté d'expression dont on parle peu, c'est une entrave économique. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire directement, ils ne sont pas complètement fous. C'est-à-dire que ça se fait progressivement, des goulots d'étranglement, on flingue un spectacle a posteriori, on ne le fait pas tourner. Bon. Donc on a comme ça des moyens de pression très directs qui font que les artistes, plus ou moins inconsciemment, intériorisent aussi un certain nombre de choses parce que il faut manger, il faut créer, il faut produire. Et donc les choses sont intériorisées. Bon. Donc cette censure économique, elle est extrêmement forte et elle est souvent passée par pertes et fracas. Mais il y a une autre censure. Moi, a priori, j'ai une étudiante qui va enfin travailler, qui est la censure par la sécurité. Les choses qui ne sont plus rendues possibles parce qu'on vous est société de précaution, hein, de prévoyance, bon, de prévention. C'est le philosophe Ancionas qui parlait d'une heuristique du danger, l'heuristique de la peur, c'est on vous fait fonctionner à la peur, bon, et puis plus rien n'est possible. Et ça a des répercussions directes sur l'art, hein, et sur les possibilités, mais vous connaissez ça pour l'essentiel beaucoup mieux que moi, sur des possibilités de se produire et de montrer des choses. Mais vous voyez bien que la chose, elle n'est pas frontale, elle est faite au nom du bon sens, au nom de, je sais pas moi, de la citoyenneté, de la liberté de circulation, de l'impossibilité aujourd'hui, etc., etc. Donc ça, c'est des mobiles aujourd'hui extrêmement forts. La poète et essayiste Annie Lebrun, que j'aime énormément, je ne peux que vous conseiller d'elle, elle parle d'une censure aujourd'hui, que je trouve, le concept me paraît très beau, d'une censure par l'excès. On ne censure plus en interdisant, on censure en noyant. C'est-à-dire qu'on accepte que beaucoup de choses circulent, mais dans le flux, elles ne se voient plus. Ou alors, les théâtres vont avoir dans leur programmation la case avant-garde. C'est Jean Jourdeuil qui disait dans les années 80, les programmations de théâtre aujourd'hui, elles s'organisent comme des grilles de télé. Donc il y en a pour tous les goûts, à chaque heure de la journée. Et Jourdeuil disait aussi, il y a quelques années, on fabriquait une programmation comme on fabrique un carrefour. C'est-à-dire, il y a des possibilités d'accident. Aujourd'hui, on fabrique des programmations comme on fabrique un rond-point. Et rond-point, on peut l'entendre aussi au sens littéral. Il y a des programmations rond-point. C'est-à-dire, il y en a pour tous les goûts. Et le même soir, vous aurez Gaspard Proust, Laurent Ruquier et Rodrigo Garcia avec des publics complètement étanches
et vous êtes sûr que les uns ne bavent pas sur l'autre, que tout ça est totalement imperméable. Et c'est comme ça aussi, par cet excès de présentation, que vous noyez la possibilité subversive, que vous noyez la possibilité, la multiplication pour des questions budgétaires des coproductions. Une coproduction, elle se fait au plus petit commun dénominateur. Hein. Alors ça peut être celui de la subversion, mais elle se fait au plus petit commun dénominateur. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus aucune structure qui peut assurer une production à elle seule. Donc ce sont des modifications qui créent subrepticement de la censure. Dernière chose, quand même, puisque dans le domaine de l'art et de la culture, comme dans le domaine de l'université, on a toujours l'impression d'être du bon côté des choses, il y a des censures racistes, sexistes, qui sont parfois inconscientes à ceux-là même qui les produisent, mais ça existe. Et le monde de l'art n'est absolument pas dénué de ces représentations ou de ces réflexes. Alors, pour aborder la dernière partie, qui serait qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, et encore une fois, ce sont des propositions, je voudrais juste revenir sur un élément historique. J'y ai fait allusion tout à l'heure, qui est, en avril 66, les représentations des paravents de Jean Genet au Théâtre de l'Odéon. Ça me permet de glisser comme ça en passant que nous avons perdu la semaine dernière l'un des plus grands universitaires, qui était Michel Corvin, qui était l'un des hommes les plus drôles, les plus coriaces, les plus méchants, les plus solitaires aussi. L'un va peut-être avec l'autre et qui est décédé. Il était increvable et il est décédé, voilà, à 86 ans. Et on lui doit l'édition des œuvres de Jean Genet dans la Pléiade. C'est pour ça que, voilà. Avril 66, les paravents de Genet au Théâtre de l'Odéon. Pourquoi je raconte ça ? Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. C'est une pièce qui ne parle pas de la guerre d'Algérie. Il n'est pas question de la guerre d'Algérie dans la pièce. D'abord, c'est une pièce que Genet écrit en 61, mais qui est écrite en 66. La guerre d'Algérie est finie depuis 4 ans. C'est une pièce sur qu'est-ce qu'une société, ça a à voir avec ce que je suis en train de raconter, qu'est-ce qu'une société fait de son petit tas d'ordures ? C'est quoi ces sociétés qui veulent absolument lisser toute trace de négativité ? À un moment, dans un de ses textes, Genet dit « Les solaires nous font chier ». Qu'est-ce que c'est que ces sociétés qui oublient qu'elles ont des... elles ont des puissances acides, et que vouloir évacuer ces puissances acides du corps social, c'est se créer des avenirs dictatoriaux ou totalitaires. Et donc, il y a un personnage, Saïd, qui représente le petit tas d'ordures dans la pièce. Et donc, il commence les représentations en avril 66, et puis très vite, les parachutistes, les paras, l'OAS, Occident, dont un certain nombre de responsables politiques aujourd'hui sont issus, commence à se dire, tiens, il se passe quelque chose par là-bas, font à peu près ce que Civitas a fait au moment de Castellucci, jet de boules puantes sur le plateau, insulte contre les acteurs, et puis ils commencent à manifester devant le théâtre. C'est le Théâtre National de l'Odéon. À ce moment-là, les jeunes de Nanterre, notamment, un peu excités, un peu énervés, décident d'aller défendre le spectacle de Genet. Donc, quand vous alliez voir un spectacle, alors c'est les jeunes, c'est Daniel Cohn-Bendit à l'époque, c'est Daniel Ben Saïd, Krivine, enfin c'est Toulouse, voilà, c'est toute cette. On est en 66, on oublie que 68 a été. C'est pas né comme ça, ça n'est jamais comme ça. Enfin, ça vient de ceux qui sont nés à la politique pendant la guerre d'Algérie et ceux qui sont nés à la politique contre la guerre du Vietnam. Et donc, des jeunes et le mouvement social, en gros, va défendre les représentations des paravents de Genet. Soit, en fait, quand vous alliez voir les paravents de Genet, vous traversiez une première ligne, c'était des paras. Une deuxième ligne, c'était les flics qui étaient intercalés entre les paras et les jeunes. Et puis une troisième ligne, c'était les jeunes. Bon. Et tout ça castagne hein, devant le théâtre. Et Genet voit ça du balcon et il est explosé de rire. Et ça lui plaît. Et c'est un moment de joie pour lui parce que c'est ce qu'il voulait. Et puis vous avez une bataille qui est menée contre la représentation, très forte, à l'Assemblée nationale. Et vous avez le ministre de l'époque, André Malraux, qui sur d'autres coups va être limite. 2 ans après, il censurera... il interdira de représentation dans le même à Chaillot la pièce d'Armand Gatti, La Passion du général Franco, sur ordre de Franco, de la même manière qu'en 66, il va créer un certain nombre d'obstacles contre la religieuse de Jacques Rivette, enfin de Diderot, filmé par Jacques Rivette. Diderot était un problème en 66 quand même. Et donc il va s'attaquer à la religieuse. Donc il n'a pas été, et ce qui lui vaudra cette lettre très connue de Jean-Luc Godard, qui dit « Monsieur le ministre, je vous ai écrit d'un pays que vous ne pouvez connaître, la France libre ». Et donc Malraux prend la parole à l'Assemblée nationale et il défend les paravents. Et il les défend avec des arguments qui sont tout à fait assez beaux. Enfin, de dire, vous nous dites que c'est une pièce anti-française, ça n'a aucun sens. Je n'ai anti-tout. Je n'ai pas plus anti-français que le peintre Goya est anti-espagnol. Bon. Et donc on va défendre cette pièce Parce que d'abord, si on l'interdit, elle va se jouer ailleurs et beaucoup plus, et ça fera beaucoup plus de bruit. Et puis parce que nous sommes peut-être en train de censurer Baudelaire, et dans l'hypothèse, on ne va pas s'attirer ce problème-là, ce ridicule-là, pour l'éternité. Donc Malraux, pourquoi je raconte ça ? Parce que là, on a un cas modèle, quoi. C'est-à-dire qu'on a effectivement une tentative d'intimidation contre une œuvre, oui, mais on a un mouvement social qui est prêt à se mobiliser pour une œuvre d'art, ce qui aujourd'hui nous pose des questions sur où est le mouvement social, où sont les liens avec les mouvements sociaux, avec la jeunesse, etc. Deuxième chose, on a une élite, un ministre, qui est prêt à aller contre son propre camp, contre sa propre couleur politique, pour défendre, et on aimerait que la ministre fasse autre chose que défendre les contenus aujourd'hui, mais qu'elle défende les œuvres et les artistes. Donc on a un ministre qui va contre son camp, et puis on a un poète qui sait et qui assume ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne pleure pas, hein. Il le voulait. Il est très. À un moment, dans un de ses textes, Genet dit « Je voudrais que le monde ne change pas pour me permettre de rester contre le monde. » Bon, ça dit au moins la position. Donc, il est ravi de ça. Et je trouve que c'est aussi important de se dire qu'une œuvre provocatrice, eh ben, si elle provoque, elle va produire des réactions et qu'on ne peut pas crier au feu une fois qu'on l'a allumé. Après, on peut le défendre, son travail. On peut accepter la bagarre, on peut y aller. Mais ça fait aussi partie du jeu et du deal que de vouloir jeter une bombe dans cette société et d'en récolter peut-être quelques éclats. Alors, sur les perspectives... Et je vais conclure. Me semble-t-il, à partir de ce cas modèle, ce qu'on peut en tirer, en tout cas ce cas emblématique, deux, trois points. Le premier, c'est qu'il va falloir, encore une fois, tout ça est très assuré, mais c'est beaucoup plus dans le doute, hein, peut-être se réarmer un tout petit peu politiquement. Il y a quelques mois, on a, à la mort de Charles Pasqua, on a rendu un hommage tout à fait étonnant, en oubliant quand même des pans entiers de cette vie, notamment ce qu'a été le gouvernement Pasqua quand il était ministre de l'Intérieur entre 86 et 88, contre l'art, contre les artistes, contre les revues homosexuelles. À l'époque, c'était Guépier. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le musée des 500 à horreur. C'était épouvantable, cette époque. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas gagné parce qu'il y avait un rapport de force. Parce que les artistes étaient mobilisés. Parce qu'il y avait immédiatement, il avançait un petit doigt, immédiatement, il y avait une protestation du monde théâtral et du monde culturel. Aujourd'hui, alors, ce n'est pas un ministre. Bon, on sait que la censure, généralement, historiquement, depuis le 17e, c'est soit l'État, soit les religions. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas directement le ministre. Je vous ai dit, la société libérale ne peut pas ouvertement assumer des fonctions de censure, même s'il n'y aurait pas aujourd'hui un spectacle sur les assassins de Charlie Hebdo. Je ne suis pas sûr qu'il serait très bien, ce spectacle. Hein. Il serait de très bon goût, mais ce serait impossible à l'heure actuelle. À la gloire des assassins, vous ne l'aurez pas. Le prix Médicis 73, Tony Duvert, œuvre pédophile, aujourd'hui, il n'aurait pas le prix. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais donc, voilà, et je ne suis pas sûr que l'État n'interviendrait pas dans cette question-là directement. Mais la question, c'est où sont les réactions collectives, pas individuelles, des artistes et du monde culturel ? Pourquoi il n'y a pas de texte ? Pourquoi il n'y a pas de pétition ? Pourquoi il n'y a pas de collectif de vigilance qui s'est mis en... Il y a des collectifs de vigilance aujourd'hui contre l'extrême droite. Pourquoi il n'y a pas de collectif de vigilance qui se met en place progressivement sur la censure ? Ne serait-ce que pour fédérer les informations, ne serait-ce que pour fédérer les ripostes, ne serait-ce que pour trouver l'écoute dans un certain... À cette heure, alors peut-être qu'il existe, mais alors il est très très inaudible. En tout cas, la convergence possible de la riposte, c'est-à-dire la mise en place d'un rapport de force, elle est très très inaudible. Deuxième chose, donc une fois se réarmer collectivement et peut-être même commencer à fonctionner avec l'éducation nationale aussi, où il y a un certain nombre d'atteintes aux droits et à la liberté d'expression des professeurs. On l'a vu dans le poste Charlie immédiat. Il y a des possibilités de convergence aujourd'hui. Et puis, vous avez quand même une grosse bagarre qui est en train de se mettre, bon, qui est perdue, comme beaucoup, mais qui s'est mise en place. Et il y a une pétition qui est sortie il y a quelques jours, un appel contre la loi sur la sécurité intérieure qui va avoir des répercussions aussi dans le milieu artistique et culturel. Deuxième chose, me semble-t-il, qui... serait absolument nécessaire, c'est se reposer à nouveau frais la question de la fonction sociale de l'art et de la culture. Et je dois dire, à cet égard, que je suis sidéré par le caractère suicidaire des arguments utilisés par le monde de la culture depuis quelque temps, à ne justifier sa position que par des arguments économiques. Vous savez, c'est le rapport l'année dernière qui est sorti, qui expliquait que les artistes, le monde de l'art apportait plus au produit intérieur brut que l'automobile. Donc on a vu comme ça des espèces de soulagement, c'est-à-dire comme le milieu de la culture avait été culpabilisé, soulagement de rapporter un peu d'argent à l'État. Donc ravi, on a vu la ministre frondeuse à l'époque, Aurélie Filippetti, venir nous expliquer, voyez, c'est quand même, l'évolution est intéressante du Parti Socialiste. 76-77, réflexion sur la culture au congrès du PS, ils sortent avec un argument qui est l'art et la culture ne sont pas des marchandises. 1990-91, grande bataille contre l'ami, etc. C'est l'art et la culture ne sont pas des marchandises comme les autres. On a un tout petit peu régressé. Et puis l'année dernière, c'est l'art et la culture sont des marchandises, c'est pour ça qu'il faut les défendre. Mais vous voyez bien que c'est absolument suicidaire d'adopter ce type. D'abord parce que, comme dit Brecht, on n'intériorise jamais sans toute impunité le discours de l'adversaire. Parce qu'il y a un moment où l'art et la culture, vous allez devenir le réseau automobile d'autres secteurs beaucoup plus probants directement économiquement. Ce qui est quand même... Et puis, troisième chose, ça ne parle pas des œuvres. Et un one-man show dans la cour d'honneur sera toujours plus rentable qu'une création de 5, 6, 7, 8 semaines avec 10 acteurs. Donc, si on va... Et il y aura autant de monde. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on sait que le off fonctionne en grande partie sur les théâtres privés des Chevaliers du Fiel et compagnie. Donc, il n'y a pas que ça. Mais c'est un facteur économique. Donc, à force de ne pas parler d'œuvres, à force de ne pas parler d'art et de sa fonction sociale, c'est une balle que se tire le monde de la culture. Le pied qui est, à mon avis, absolument criminel. Parce qu'elle va se retourner le jour où vous serez moins rentable. Bon. Donc, première chose, l'argument par l'économie. Et puis, la deuxième chose, c'est l'argument par le... Je sais pas, on pourrait appeler ça le citoyennisme. Où nous allons participer à la résorption de la fracture sociale. Donnez-nous de l'argent, nous sommes un facteur d'équilibre. Ça aussi, c'est suicidaire. C'est-à-dire, comment vous voulez résoudre des problèmes pour lesquels vous n'êtes pour rien ? C'est-à-dire, comment vous voulez résoudre un problème structurel dans un pays où le chômage est endémique de 10%, il est structurel, il est systémique, et c'est le monde artistique qui va venir cautériser les plaies ? Mais vous allez rater, ça va échouer. Mais de la même manière que l'université, quand on nous a dit votre travail, c'est de donner du boulot aux jeunes. On va échouer, et on a échoué. C'est pas notre travail. Et évidemment, à force de se donner des critères de réussite qui sont inatteignables, on se tire une balle dans le pied là aussi. C'est-à-dire que peut-être même, enfin, il y a un moment en tout cas, où l'art n'était pas là pour résoudre la fracture sociale. Il était là pour la rendre visible. Il n'était pas là pour la camoufler. Il était pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de travail d'éducation populaire, de travail au contraire. Mais ça veut dire pourquoi on y va dans les banlieues ? Pourquoi on y va dans les quartiers populaires ? Et ces gages donnés à l'État républicain, à mon avis, vont se retourner très très vite contre le monde artistique et culturel parce que vous serez, me semble-t-il, je dis vous entendez le vous, hein, toujours perdant. Mais encore une fois, nous, l'université, pareil. On s'est fait avoir à se donner des critères qui sont... C'est la phrase de Villard, donnez-nous de bonnes sociétés, je vous donnerai un bon théâtre, quoi. Mais on n'inverse pas les choses. On n'inverse pas les choses. Me semble-t-il donc, une fois qu'on a, et pour un article, j'ai lu les éditions, ce qui est une lecture un peu éprouvante, la totalité des éditoriaux, des plaquettes de saison, des centres dramatiques nationaux cette année. Et dedans, en plus, j'ai beaucoup d'amis. Parce que j'arrive à un âge où c'est mes amis maintenant. Et c'est terrible. C'est terrible parce que c'est une sorte de catéchisme républicain, une espèce de moraline, comme dirait Nietzsche. Mais ce n'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. Et encore une fois, je crois qu'il y a un moment où c'est ne pas se donner les moyens d'exister et de donner des arguments aux élus, au monde politique, pour les bagarres qui nous attendent et qui sont imminentes. Ce qui veut dire, et je vais conclure là-dessus, qu'il y a un gros travail à refaire, et là tous ensemble, avec les spectateurs, avec les universitaires, les critiques, et surtout les artistes et tout le monde professionnel, c'est de se reposer la question de la fonction sociale de l'art, aujourd'hui, qui n'est pas une petite question, se reposer la question de la fonction sociale et du rapport à la subvention, parce qu'on a tendance à croire, ça aussi, dans les éditoriaux, alors pas directement, mais dans les discours en tout cas, cette confusion entre l'État et le service public. Enfin, on touche des subventions au nom du service public. Ce n'est pas un don de l'État, ce n'est pas un cadeau de l'État. On n'est pas des agents de l'État quand on est un artiste ou même quand on est un universitaire. On travaille, on a de l'argent public parce qu'on est, on participe à une entreprise de service public. L'État, c'est, alors, sans tomber dans un marxisme peut-être obsolète, c'est une excroissance parasitaire. On y reviendra plus tard. Mais les artistes, ce n'est pas parce qu'ils touchent des subventions qu'ils sont les petits soldats de l'État. Parce qu'ils touchent des subventions, ils ont des comptes à rendre, évidemment, aux tutelles qui donnent de l'argent, mais ce n'est pas la même chose. Bon. Donc repenser la question de la fonction sociale de l'art et de la culture, et repenser sa fonction sociale, et je conclue vraiment là-dessus, me semble-t-il, c'est adopter le vieux mot d'ordre brechtien, c'est-à-dire se penser comme son propre historien. Et c'est donc l'historiciser. se demander à quel moment, parce que la fonction sociale sous Beaumarchais, c'est pas la même, qui est grand auteur censuré, hein, 6-7 ans sans pouvoir montrer sa pièce, c'est pas la même fonction sociale qu'aujourd'hui. Et ça veut dire donc se poser la question du jeu qu'on joue dans cette société. Aussi, de ne pas être complètement dupe d'un discours d'incitation à la subversion et à la transgression. De se demander à quelle est la place qu'on occupe. Phrase déterminante du grand philosophe Walter Benjamin, en 1934, congrès des intellectuels antifascistes à Paris, le pauvre, il va y laisser sa peau. Et il écrit dans son texte, la question, ce n'est pas de se demander comment on réagit face au rapport de production. C'est-à-dire, on est contre le capitalisme, on est contre le libéralisme, on est contre la main. Non, la question, c'est de se demander comment on est dans eux. C'est-à-dire de se poser la question de la place qu'on occupe. Et donc d'être un peu vigilant sur ce qu'on croit être sa spontanéité, et qui est une spontanéité qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est archi-travaillée par la publicité, par les médias, par l'idéologie dominante. Et me semble-t-il, ce travail-là, il ne peut pas se faire individuellement, il peut se faire collectivement. Et ce qui serait formidable, c'est qu'on arrive à inventer les cadres de ce travail collectif, un, de vigilance et de riposte, et deux, de contribution et d'élaboration à une pensée actualisée de la fonction sociale de l'art et de la culture. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Olivier. Avant d'ouvrir totalement les débats, j'ai une ou deux personnes, ou trois ou quatre en fait, à qui je voudrais passer la parole rapidement et qui ont des petites expériences à partager de ce qu'ils ont pu vivre ou réfléchir récemment. Et en premier lieu, à Jacques Julou, qui est vice-président culture. Tu dois avoir un micro derrière toi, Jacques. Je ne sais pas si Cécile est dans le coin ou Olivier là. Il y en a deux qui arrivent, c'est magnifique. Voilà, vice-président culture de la CocoPac et voilà, qui avait des réflexions à partager sur ces questions-là. Ouais, c'est bon, vas-y.
Là, quand je parle, on entend amplifié. D'accord, ben, ça fonctionne bien. D'accord. Waouh. Waouh. Prendre la parole après toi, pas simple. Hein. J'étais en train de me. Je viens de vivre quelque chose d'une expérience dans ma commune. Emmanuel Todd est venu présenter qui est Charlie. Et j'ai eu le sentiment de revivre un peu la même puissance évocatrice d'arguments et, on va dire, de réflexion, parce qu'elle est alimentée dans tout ton travail par des lectures, par des rencontres. Et restituer en un instant record ne doit pas nous laisser sur place chaos. Il faut remettre les éléments qui ont pu être dits en perspective. Moi, ma perspective est assez simple, hein. C'est celle d'un élu. Mais n'empêche que j'ai déjà, dans ce que j'avais... je ne savais pas que j'allais intervenir après toi, déjà, pour commencer. Hein. Je ne savais même pas que j'allais intervenir sur un mode d'intervention cadré comme ça. Je pensais davantage au sein d'un débat. Mais dans ce que tu as dit, par moment... Alors, Emmanuel Todd, quand il évoque la société et la liberté d'expression, il parle d'une procession de catholiques zombies qui réduisent très singulièrement la mobilisation, et c'est beaucoup plus subtil que ça, même si on sait, comme tu l'as exprimé, que derrière, il y a des privilégiés, il y a des non-dits, il y a des gens qui sont là pour le contraire de ce que d'autres veulent exprimer, etc. Mais tu, comme Emmanuel... Me semble-t-il, tu as fait des raccourcis idéologiques et comme j'ai la conviction qu'être politique, c'est être avant tout militant, être élu, c'est militant, les quelques raccourcis que tu as fait sur la fin, j'aimerais les resituer peut-être, si je peux, dans mon intervention. Vous dire d'abord que je veux exprimer trois idées simples et binaires, pas dans une perspective historique, mais dans une perspective de vécu. Quel est le rapport d'un élu à la culture ? Deuxièmement, quel est le danger actuellement qui guette les élus et la culture ? Et troisièmement, quelle pourrait être l'attitude convenable d'un élu ? Et tu viens d'ébranler plein de concepts que j'aurais pu évoquer. Bon, voilà, c'est comme ça. On ne s'est pas concerté. Un élu, pour moi, je suis élu du pays de Quimperlé, je suis maire d'une commune, j'ai un parcours militant antérieur, syndical, associatif... pas politique. Politique, ça fait 15 ans. Mais je me suis rendu compte en étant élu que les gens avec lesquels j'exerçais des fonctions étaient incroyablement impréparés aux questions culturelles. C'est-à-dire que dans le schéma qui mènent des élus à un mandat, il y a plein de motivations, il y a plein de parcours, mais il y a très peu d'expérience culturelle, voire aucune expérience culturelle. C'est en écho un peu ce que tu disais sur les élites. Moi, je ne dis pas les élites, je dis les gens, parce que moi, je suis élu Jean, je ne suis pas dans une élite. Voilà. Et donc, la question que je me pose sur autocensure, censure, c'est une première question. Comment se fait-il qu'ils s'autocensurent sur la possibilité de contribuer à la culture une fois qu'ils sont élus? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un élu est offensif ou un élu est passif sur le plan culturel? Une des premières explications, c'est qu'il n'a même pas intégré le plaisir que peut procurer la dimension culturelle dans une vie parce qu'il ne l'a pas suffisamment expérimenté. Et ça, je l'ai, c'est absolument pas un jugement, c'est une réalité. Et à ce niveau-là, je voudrais dire, et encore une fois, s'il y a des copains élus ici, hein, c'est pas, moi, je ne suis pas Tarzan la banane. J'adore la culture, je ne suis pas capable de la restituer, je ne suis pas capable de la vivre corporellement. Mais j'en ai besoin, et j'en ai toujours eu besoin. Les RIA. Je suis élu il y a 6 ans ou 7 ans maintenant, dans un premier mandat de maire. Je deviens vice-président à la culture, vous pourriez prendre une voiture chez Renault qu'on vient de vous présenter. Vous démarrez avec le véhicule et puis vous rencontrez 32 personnes qui vont travailler avec vous dans votre commission. Ces 32 personnes ont 32 expériences différentes et ont tous la même préoccupation: comment on peut faire avec ce qu'on a? On part toujours, quand on est élu, de ce qu'on a et très rarement de ce qu'on vise. Et l'élu, très rapidement, dit eh ben, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on n'a pas. Il ne se pose pas la question de quel est le chemin qui mènerait à pouvoir et quelles sont les conditions pour avoir les moyens financiers, quelles sont les choses sur lesquelles on peut travailler, remettre en question. On ne se pose pas la question ni de la voirie, ni de l'éclairage public, ni de la restauration scolaire. On va toujours se poser de manière... de toute façon, on ne peut pas. Le festival des RIA, il est né d'une volonté politique précisément. Tu l'as dit tout à l'heure, Sébastien, 3 communes ont décidé, parce que politiquement, elles font le choix d'essayer de renouveler l'offre culturelle, elles vont faire appel au fourneau en disant, voilà, on aimerait créer les conditions d'une offre culturelle qui soit une offre culturelle qui puisse permettre un petit peu de lancer un processus. On se met d'accord, on y va tous les 3, et puis pendant 3 ans, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a de plus en plus de gens qu'on est de moins en moins en situation de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc on pose le fait intercommunal. Les élus intercommunaux, au début des RIA, ils ne votent pas tous le budget. Ouais, ça coûte, hein, ça coûte. Et puis il y a d'autres, comme tu dis, il y a d'autres. La culture, ça va pas résoudre les problèmes de société, les problèmes économiques. C'est bien, oui, c'est bien, mais bon, on peut pas. Autocensure, hein, en permanence. On s'autocensure sur le budget et que vont dire nos électeurs, parce que ça, c'est des choses qu'ils nous ont pas demandé. Alors, quelle a été l'expérience que j'ai eue à ce niveau-là? C'est que quand il y a eu les RIA dans leur village, tous les maires, tous les élus sont venus voir le truc. Et puis ça leur a plu. Et puis progressivement, ils sont devenus de spectateurs désireux de mettre en œuvre davantage et plus. Et au-delà, maintenant, dans les communes, se pose la question des petites communes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'ils ont eu cette pratique culturelle et les habitants qu'ils ne connaissaient pas. Enfin, cette pratique culturelle au sein de leur propre commune. Hein. Et donc, la première chose que je voulais exprimer, c'est l'autocensure. Elle vient d'abord des marges budgétaires et des pratiques inconscientes des élus sur le fait qu'on ne peut pas. Et je pense que c'est très important. Alors, c'est Olivier Bianchi, qui est donc maire de Clermont-Ferrand. J'étais à une assemblée des communautés de France et lui, il était président de la communauté, président de cette commission culture. Et il dit, et tous les élus doivent le savoir, et je suis d'accord, comme toi tout à l'heure quand tu posais les problématiques par rapport au milieu professionnel, la culture, c'est un combat. Et quand on fait de la politique, ben, faut pas baisser les armes. Et je considère que ce que tu dis sur Fleur Pellerin tout à l'heure est une forme de renoncement, effectivement. Et nous avons et nous devons exercer nos mandats avec cette perspective de faire passer des messages. Voilà. J'en arrive au grand danger de l'autocensure, que j'appelais l'acte 2 sur le danger. L'autocensure, c'est celle qui, non seulement ne s'autorise pas, mais maintenant, il va falloir agir sur les budgets. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, que ça n'existait pas, mais maintenant, pire, il va falloir les cacher ou il va falloir les baisser. Et là, moi, j'ai très mal vécu, parce que ce n'est pas rien, ces choses-là. Et je le dis, je suis encore noye, et je l'assume. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, qu'on m'a demandé d'intervenir. Quand vous avez un élu qui est responsable d'une grande ville, en l'occurrence Quimper, et qui dit on a des baisses de dotation, donc on va baisser d'autant le budget de la culture, pour moi, c'est exactement comme si on disait on a une baisse des dotations, donc on va baisser l'assiette des élèves, la quantité de nourriture dans les cantines. C'est aussi absurde. C'est-à-dire qu'on est en train de dire il y a moins d'argent, donc on va prendre un petit peu partout, on ne va pas se poser la question de pourquoi et vers quoi on va. Et donc, on l'a revu avec d'autres élus dans d'autres domaines. Et évidemment, là, je le livre en tant qu'individu, je pense que la réforme qui a été faite sur les dotations qui ont été ponctionnées, en soi, est discutable. Mais ce qui est surtout discutable, c'est l'effet brutal et pas la question de fond qui aurait dû être la question peut-on vivre à ce rythme-là? Comment peut-on lisser dans le temps? À quelle hauteur peut-on lisser? C'est d'un seul coup, boum! Et que font les élus dont j'ai dit qu'au départ, ils n'avaient pas les éléments suffisamment étayés par rapport à la culture? Ils font boum! Et ils s'autocensurent. Alors, quel devrait s'autocensure ou contribue, comme tu l'as dit, à une idéologie libérale par les choix et le retentissement médiatique qu'ils vont en donner quand ils vont le faire? Le troisième élément, qui est celui que je me pose tous les jours, moi, en tant qu'élu, c'est quoi être élu au service de la culture? Là, tu as dit des choses, je voudrais te reprendre, parce que tu es comme Todd, toi, tu aimes bien les trucs. La culture est une marchandise, serait la dernière conclusion. Je voudrais te dire que je suis intervenu en conseil communautaire pour défendre les RIA en présentant ce rapport. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société, quand tu parles d'une œuvre, tu parles d'un processus abouti dans ta tête. J'en comprends l'essence, mais pas tout le monde, déjà. Et ensuite, comment tu peux l'étayer pour que ça puisse, dans la société, avoir un écho? Ce rapport, il ne dit pas que c'est une marchandise. C'est là où je ne suis pas du tout... j'avais envie de... Il dit qu'il contribue à l'économie, contrairement à tout ce que l'on dit de la culture, non seulement... Ça, ce n'est pas le rapport qu'il dit, mais c'est comment il faut l'utiliser. Non seulement c'est un apport social, un apport par rapport à l'évolution même des sociétés, au vivre ensemble et tout ce qu'on veut, mais en plus, contrairement à ce qu'on dit sans arrêt, ce qu'on veut bien nous faire croire, c'est que ça contribue également, et ce n'est pas une marchandise de contribuer, c'est comme quand tout à l'heure, tu disais, à un moment donné, il y a un débat, il y a des gens qui sont antiracistes d'un côté, antiracistes de l'autre, etc., ils ne débattent pas. J'ai le sentiment, moi, quand tu dis ça, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que parce qu'on dit que l'économie et la culture peuvent, à des moments donnés, rejoindre des processus de développement et que c'est intéressant, ce n'est pas exclusif. Voilà ce que je voulais te dire. Moi, en tant que citoyen, en tant qu'élu, je suis d'abord citoyen. Et donc, je veux tout simplement dire que quand on est élu, on doit se dire quelles sont les choses simples, quelles sont les choses qu'on aime, quelles sont les choses qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'en pensent les gens. Comment ça se passe? Moi, je vais à des spectacles, je ne les aime pas tous. Il y en a, ils me font réagir, je m'en vais, je me barre. Il y a des spectacles dans la programmation éclectique dont tu parles qui m'intéressent, j'y vais, je n'y vais pas. C'est comme le cinéma à réessai, d'ailleurs. Il y a des salles avec, on va dire, différents niveaux de programmation. Donc, je pense qu'un élu doit être vigilant à regarder, à écouter, à recueillir, et puis jamais à dire et jamais à faire en sorte que ce qui peuvent être... des orientations, c'est-à-dire proposer, diversifier, etc., soient des consignes. Et l'élitisme, quand tu parlais tout à l'heure de gens qui ne se côtoient plus dans des salles de spectacle parce qu'ils vont au spectacle A, catégorisé par tel type de production, ou B, etc., ça ne répond pas à la question non plus d'un théâtre ou d'un spectacle qui viserait un seul public en permanence. Je veux dire, ils ne se rencontreraient pas davantage. Donc, je veux dire, le problème de l'éclectisme tel que tu le poses, pour moi, n'est pas davantage réglé dans la présentation que tu as faite. Voilà, si tu veux. Comment fait-on? Et c'est peut-être une des vertus. Alors, les arts de la rue, c'est aussi compliqué parce que beaucoup de gens des élites, les rejettent aussi, parce que ce n'est pas suffisamment dans des lieux ou dans des formes abouties, etc. Moi, j'aime notamment les arts de la rue. Et en tant que maire, on fait aussi de l'opéra, on fait du lyrisme, on fait aussi d'autres formes, parce qu'il faut se forcer à faire toutes les formes. Hein. Mais les arts de la rue sont quand même un éveil, à mon sens, à toute la multitude de productions artistiques. Et ils contribuent, à mon sens, à une certaine forme d'éclectisme qui permet de toucher beaucoup de gens très différents. Et ce que disait Five Foot Finger, c'est le vivant. Et le vivant, c'est essentiel parce que c'est celui qui va nous parler et qui peut parler au plus grand nombre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, si je suis hors sujet, je m'en fous, je suis dans la liberté d'expression, donc tout va bien.
Merci, Jacques. Je voulais aussi donner la parole à Paul Bloas. Vous avez peut-être pu voir son exposition ici et qui a, par sa pratique artistique particulière, tu te réveilles, Paul ? Aussi vécu des choses liées à ces questions-là.
Alors moi, par quoi commencer ? Moi, la censure, enfin, ou je sais pas, les problèmes que j'ai pu avoir dans mon travail, en tous les cas, ils sont passés plus en France qu'à l'étranger. Je suis pas forcément parti travailler dans des pays faciles. Je pense au Liban, à Madagascar. À des pays comme ça, je veux dire, à Madagascar, je me rappelle être intervenu en pleine période d'élection entre à l'époque où il y avait Ratsirak et Ravalman. Enfin, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose parce que c'est un pays qui est bien loin de chez nous. Mais c'était un président Ratsirak qui était en place depuis très très longtemps. Et puis, comme les vieux crocodiles, il n'a pas envie de partir. Donc je suis intervenu, je collais des images comme ça. À Madagascar, on n'avait pas trop l'habitude de voir ce genre de choses, notamment dans une ville au nord de Madagascar qui s'appelle Diego Suarez. Et donc, c'est tombé dans les manchettes de la presse locale. Donc, il y a eu quelques problèmes, mais ça n'a pas été bien loin, quoi. J'ai pas été en prison pour autant, enfin, des trucs comme ça. Au Liban, c'était pareil. Je me rappelle à Bilbao, c'est très chaud également. On m'a quand même laissé coller sur des commissariats de police, hein, ce qui est... Les flics me regardaient le faire. Je ne savais pas que c'était un commissariat, mais ils m'ont laissé le faire. Et le seul problème que j'ai pu avoir, je me rappelle, c'était à Nantes. À Nantes, où je venais coller un personnage, et aussitôt, parce que généralement, je ne demande pas les autorisations pour le faire. Aussitôt, les flics sont arrivés, ils m'ont dit, non, pas question, qu'est-ce que vous allez faire ? Je dis, c'était sur la Tour de Bretagne. J'aurais montré les pieds du personnage qui faisait 50 cm, ils m'ont dit... Non, vous partez de là, rien du tout. J'ai essayé d'aller en coller un peu plus loin. C'est pareil, ils sont revenus à la charge, donc je n'ai pas pu. Les petites choses qui m'ont inquiété dernièrement, c'était par rapport à Charlie. C'était au lendemain du drame de Charlie. En fait, j'avais collé deux personnages sur le pont de recouvrance à Brest, en hommage à ça. C'est la première fois que ça se passait. Les personnages ont été détruits au bout de deux jours. Ça m'était jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une griffe humaine à venir et à décoller les personnages. Et il en reste quelques lambeaux actuellement, quoi. De toute façon, le message était vraiment explicite de par le sens des peintures, enfin de ce qui était posé. Et puis, il y a eu une autre chose aussi où il y a eu confusion des genres, par contre. C'était au lendemain des attentats de Charlie. En fait, je comparaissais au tribunal de Brest pour dégradation d'épave. C'était à Landévennec. J'avais collé des images sur des bateaux qui sont destinés à partir à la casse. Et donc, très justement, je dirais, la Marine nationale a porté plainte. J'ai dit très justement. Et parce que ce sont des lieux qui sont extrêmement dangereux. Bon, il faut savoir qu'à l'origine, j'avais fait la demande à la Marine nationale, qui m'avait répondu non. Donc après, j'ai fait la demande au ministre de la Défense, qui m'a répondu non également. Et dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Donc je savais ce que je voulais. Donc je me suis dit, à tous les coups, tu vas passer au trapèze. Donc il faut considérer la chose comme un élément créatif. Enfin, puisse t'amener des idées. Donc j'ai collé des prisonniers, c'est-à-dire la tradition des pontons, c'est-à-dire les prisonniers qui étaient des navires à l'époque au XVIIIe, XIXe siècle, qui étaient des armées. On mettait les prisonniers dans les cales et ils sortaient une heure par jour sur les pontons. Donc j'ai collé quelques prisonniers sur ces bateaux que vous trouvez en photo là. Et donc je suis passé au tribunal par la suite. Et il y a eu vraiment une confusion des genres, ouais, c'est-à-dire la presse a titré halte à la merde, c'était quoi leur truc, enfin, qu'il fallait laisser les gens s'exprimer, c'est-à-dire. Et c'était pas du tout ça, c'est-à-dire la Marine nationale intervenait parce que j'intervenais sur un lieu qui était très dangereux. Elle n'intervenait pas pour me dire il faut pas faire ça ou enfin pour me donner des directives. Donc j'ai fait mon boulot, je suis passé au tribunal, donc j'ai écopé d'un rappel à l'ordre tout simplement. Et donc par la suite j'ai vu le procureur et je lui ai dit que ça rentrait bien dans le scénario puisqu'il fallait bien qu'il y ait une condamnation pour qu'il y ait des prisonniers sur les bateaux. Donc il y a eu préméditation, mais bon, le jugement était rendu, donc c'est trop tard pour revenir là-dessus. Donc la censure, c'est pas de la censure, mais je veux dire, il faut savoir utiliser les accidents aussi pour pouvoir mener à bout certaines créations. C'est essentiellement ça que je voulais dire. Voilà. Je voulais dire aussi une chose, c'est que je pensais à Charb et à Tinius, enfin c'est des gens que j'avais rencontrés lors des festivals. Le dernier geste de Charb, c'est un copain qui dessine chez Charlie qui me racontait, ça a été quand l'un des gars est rentré dans la salle avec sa calache, il a demandé qui est Charb. Et le geste de Charb, ça a été de se lever et lui faire un doigt d'honneur. C'est-à-dire jusqu'au bout, il a défendu son travail. Ce qui lui a valu une balle, bien sûr. Mais il a été au bout de ses convictions, quoi. Je trouve ça.
Merci, Paul. Et enfin, avant d'ouvrir complètement les débats, je voulais aussi donner la parole à Caroline Loire et Alex Pavlata. Je vais vous donner en même temps, comme ça vous débrouillez, qui ont une expérience un peu commune autour de ces questions-là. Peut-être tu peux commencer, Caroline, puisque toi, tu as deux petites choses à raconter. Donc, Caroline dirige les festivals On se bouge et Arter en région parisienne.
Oui, par quoi commencer ? On va commencer par On se bouge. En fait, donc moi, j'officie avec On se bouge dans le 11e arrondissement, donc arrondissement qui a été évidemment très meurtri en janvier. Et d'ailleurs, dès le 8 janvier, mes collègues de bureau, c'était 40 militaires qui sont arrivés juste après l'attentat. Et donc, pour cette programmation d'On se bouge qui avait lieu en juin, on avait décidé de programmer la compagnie numéro 8 avec le spectacle Garden Party, que vous avez vu peut-être ce matin, et qui était en création. Et puis, au mois d'avril-mai, je fais mes dossiers d'autorisation deux mois avant, préfectoral et municipal, et je décide de ne pas parler des armes à feu dans ce dossier, en me disant, bon, si je parle direct, je ne vais pas pouvoir le faire. Et puis, la création d'Alex continue, etc. Et puis, on en parle ensemble. On devait faire ça rue de Charonne, qui est vraiment en plein cœur du 11e arrondissement, à deux pas du commissariat, des synagogues, etc. Donc c'était un peu bon, compliqué. Et puis j'en parle quand même au maire du 11e arrondissement, en disant, bon, je vais faire un spectacle, il y a des armes à feu, mais on sera autour pour encadrer, etc. Et puis le maire, sur le coup, ne dit rien, et puis réfléchit un peu après, et puis dit quand même... J'aimerais qu'on en reparle. Et en fait, on en a longuement parlé ensemble, longuement parlé avec Alexandre. Et on a pris la décision de ne pas faire ce spectacle parce que pour le coup, c'était vraiment trop près de ce qui s'était passé. Et c'était trop près en lieu puis en temps aussi. Et qu'on a pris la décision ensemble de changer de spectacle, de faire Monstre d'humanité à la place de Garden Party. Et cette décision, je l'assume complètement. C'est vraiment, je pense qu'on l'assume complètement d'ailleurs, parce que je pense qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Ça aurait été malvenu pour le coup de le faire. Donc on a pris cette décision d'autocensure, en fait. Et puis ça, c'est une expérience que j'ai eue. Et j'ai eu une autre expérience malheureuse. Hein. Je savais qu'à Paris, j'allais avoir plein de problèmes après ces attentats. Ça n'a pas loupé. J'ai fait un autre spectacle qui s'appelle Les Regardeurs, d'une compagnie qui s'appelle Les Souffleurs Commando Poétiques, dont le but était de mettre des artistes en haut d'immeubles, sur des tours. Il y avait 9 artistes en position de vertige, c'est-à-dire qu'ils sont debout, immobiles, et ils ont les doigts de pied dehors. Et ils font des tombées poétiques et des levées poétiques. Il y a tout un travail autour de ça. Et ils regardent le monde d'un œil bienveillant. Et je ne me suis pas doutée du tout, parce que j'ai des avis favorables, commissariat, etc. Mais la préfecture m'a interdite de faire ce spectacle à peine 20 heures avant le début, alors que tout était monté, etc. Donc ça, c'est de la censure de sécurité. J'ai pris ce nom-là. Et donc, on a été obligé de ne pas faire ce spectacle, de ne pas monter sur les immeubles, puisque c'était un trouble à l'ordre public. Alors évidemment, ça a fait beaucoup de tollé dans la profession, parce que la compagnie, ce sont quand même des poètes qui sont loin de faire du trouble à l'ordre public. Mais la forme avait un caractère anxiogène pour la préfecture, qui pouvait faire penser au public d'actes de suicide. Ce qui, après coup, n'était pas infondé. La question, c'est qu'on ne m'a pas averti. On aurait pu réagir, faire... au lieu de 9 points, faire 6 points. Et je les ai vus après. Et effectivement, j'aurais eu l'autorisation pour ça. Donc, je n'ai pas eu le temps de réagir. Mais du coup, la compagnie est restée quand même sur le lieu pendant une semaine. On a intervenu au sol. On s'est adapté. On a créé. On a continué. Ils ont continué. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait... sur ce genre d'espace public parisien et autres, hein, d'ailleurs, il ne faut rien lâcher. C'est-à-dire que moi, maintenant, je me demande d'y retourner avec les 6 points dont on m'a autorisé après coup, justement pour ne pas laisser cet espace public vide et lâcher du terrain. Et je suis en bataille constante à Paris pour n'importe quel spectacle qu'on peut faire. Et voilà, c'est un peu... ce que je fais tous les jours. Voilà.